toute l'info en trois lettres, RRB.
17h45 sur RRB Info Weekend, Mickaël Juneski.
À la une, les composants du FLNKS présentent à Koumak désignent Christian Théin comme président du Front indépendantiste. Décision contestée par les grands absents, Victor Tutugoro de l'UPM redoute un point de non-retour franchi pour l'existence même du FLNKS. KNS est entré dans la phase de transition vers la veille froide. Seuls 200 membres du personnel restaient désormais sur le site de l'usine du Nord. Une édition exceptionnelle pour le salon Saveurs et Traditions. Le rendez-vous a fait recette avec plus de 7000 visiteurs enregistrés sur 4 jours à la Maison des Artisans. La reprise des services du rail, le réseau d'autocars interurbains. Il était suspendu depuis le début des violences qui ont touché la Calédonie. Les bus vont reprendre leur liaison sur la côte ouest. L'actualité nationale, une proposition de résolution de destitution lancée par la France insoumise à l'encontre d'Emmanuel Macron, mais la procédure a peu de chances d'aboutir. Le sport, plus de 800 participants au Yala Trail, le retour des courses en pleine nature, c'était ce dimanche sur les sentiers de Dimbéa. Et les Jeux paralympiques, pas encore de podium pour les Calédoniens. À Paris, ce soir, Pierre Ferbanque et Félicien Siapo entrent en piste. Bonsoir et soyez les bienvenus dans Info Weekend pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Le 43e congrès du FLNKS a été clôturé cet après-midi. Il était réuni depuis vendredi à la tribu de Pagou à Koumak, un congrès extraordinaire qui se déroulait en l'absence du Palika et de l'UPM et dont les motions ne devraient donc pas être validées. La principale des décisions, qui a des allures de provocation, c'est la nomination de Christian Théin comme président du FLNKS. Une désignation acceptée par la majorité, mais elle n'engage que les mouvements présents sur place. Elle a été saluée dans son discours de clôture par Alosio Sacco, le président du RDO, en charge de l'animation, qui a demandé pardon aux jeunes qui s'étaient mobilisés sur le terrain.
Aujourd'hui, grâce à vous, je vous remercie et je vous demande de vous remercier, nous tous, pour la décision que nous avons prise de mettre enfin un chef à la tête du FLNKS. Physiquement, il est isolé, mais son image, la parole qu'elle a portée dans la mobilisation et dans notre esprit et dans notre cœur. Oui, il est présent parmi nous. Nourrissons-nous de ce que nous avons appris pendant toute cette période de mobilisation. Cet élan que Bichou avait lancé, cette dynamique, il nous faut rester groupés, unis dans cette dynamique pour consolider cette trajectoire qui doit nous mener vers la souveraineté pleine et entière de Kanaky.
À l'issue de ce congrès, Laurie Oumouni, la secrétaire générale du RDO, parlait d'un congrès historique puisque le FLNKS n'avait plus de président depuis 22 ans.
C'est un congrès assez historique, hein, j'ai envie de dire, parce que on a acté quand même des motions qui sont fortes, notamment avec la nomination d'un président du FLNKS. Donc ça faisait 20 ans qu'on n'avait pas eu de président, comme Monsieur Sacco a pu le dire là dans le discours de clôture. C'est historique, c'est la première fois depuis 20 ans qu'on n'a pas eu de chef de file. Ça a toujours été une demande et malheureusement on n'a jamais réussi à se mettre d'accord pour positionner un président. Donc aujourd'hui, il faut prendre acte de ça, qu'on a positionné Monsieur Christian comme président du FLNKS.
Et parmi les autres motions adoptées par ce 43e congrès, la demande de libération des militants indépendantistes interpellés après le 13 mai et l'intégration de la CCAT dans les instances du FLNKS.
Le 43e congrès a demandé effectivement que nos prisonniers soient considérés comme des prisonniers politiques. Donc ça, ça a été acté. Nous avons également reconnu la CCAT au même titre que les comités de lutte comme étant des outils de terrain, de mobilisation sur le terrain pour justement accompagner les négociations qui pourraient se faire sur la trajectoire et notamment sur l'objectif à atteindre, l'indépendance pleine et entière de la Kanaky.
Et malgré l'absence du Palika et de l'UPM, Laurie Oumouni affirme qu'il n'y a pas de rupture au sein du FLNKS.
Ce choix, cette décision de nommer Christian Théin en qualité de président du FLNKS, d'une part, effectivement, c'est salué et d'autre part, effectivement, la réaction est un peu plus mitigée. Mais en tous les cas, de toute façon, c'est vrai que nos camarades nous avaient déjà prévenu qu'ils seraient absents de ce congrès. Ils s'étaient même excusés. Ça ne veut pas dire qu'il y a une fracture au sein du FLNKS. Ça veut simplement dire que pour ce rendez-vous, c'est un rendez-vous manqué, mais ils n'ont pas choisi de sortir du FLNKS. Ils ont choisi de se dire « faites ce congrès ». Ce congrès est important pour la suite à venir et pourra se retrouver après, tout simplement parce que c'est aussi ça la richesse du FLNKS. C'est malgré les divergences d'opinion, même les divergences de vision, on arrive toujours à pouvoir palabrer, échanger, discuter pour effectivement qu'on puisse ensemble trouver un consensus, trouver une même ligne politique pour nous permettre d'atteindre notre objectif.
On rappelle que dès vendredi, le Palika avait fait savoir dans un communiqué que, je cite, dans la mesure où deux des quatre composantes seront absentes, ce rassemblement ne peut pas être un congrès du FLNKS et que ce qu'il en sortira n'engagera en aucun cas le Palika. La validité de ce congrès extraordinaire et des décisions qu'il aura prises seront donc forcément remises en cause. Dès ce soir, une réaction de l'UPM par la voix de Victor Tutugoro. L'Union progressiste mélanésienne ne participait pas non plus à ce congrès. On écoute son président.
Évidemment, ça ne vous aurait pas échappé que j'indique qu'évidemment l'UPM n'est pas d'accord. On ne se reconnaît pas dans les décisions qui ont été prises et donc nous estimons que ces décisions-là, ça ne s'applique pas. Non, ce n'est pas faute d'avoir demandé d'organiser les conditions nécessaires pour que ce congrès puisse se tenir dans les meilleures conditions. Il n'en a été rien. Aujourd'hui, on se retrouve avec, à la tête du FLNKS, quelqu'un qui est responsable de la CCAT, responsable de tout ce qui s'est passé depuis le 13 mai, toutes les exactions, toutes les destructions, tous les incendies de l'économie qui est aujourd'hui à genoux. Ça, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas accepter, ce qui fait courir le risque qui se pose aujourd'hui. La stratégie de destruction, la stratégie de l'imposition, oui, elle continue. Ce que nous déplorons, nous qui sommes attachés à la stratégie derrière la poignée de main du 26 juin, ce que nous redoutons aujourd'hui, c'est qu'on aille droit dans un non-retour, puisque une nouvelle étape a été franchie aujourd'hui. Quand je dis un non-retour, c'est dans le fonctionnement même et de l'existence même du FLNKS, oui.
Les mouvements membres du FLNKS qui n'ont pas participé aux travaux à Koumak ce week-end et qui contestent les décisions prises devraient annoncer leur démarche prochainement, selon Victor Tutugoro, après la désignation notamment de Christian Théin comme président du FLNKS. On vous l'annonçait hier, cette violente agression subie par deux élus à l'île des Pins, Virginie Ruffnac et Laura Vandégout, ont déposé plainte, Léana Colombo.
Les deux élus de la province sud ont été prises à partie hier, alors qu'elles étaient en déplacement sur l'île pour rencontrer la communauté religieuse et les acteurs du tourisme local. Une visite de soutien à la population kounyée qui n'a pas pu aller à son terme. En effet, une dizaine de jeunes cagoulés leur ont demandé de quitter l'île en les prenant à partie verbalement avant de caillasser leur véhicule. Les gendarmes qui les protégeaient ont également subi des jets de cocktails Molotov. Vous avez pu entendre le témoignage de Virginie Ruffnac sur notre antenne. Une altercation vivement dénoncée, notamment par la présidente de la province sud, Sonia Baquès, qui a réagi sur ses réseaux sociaux.
L'effet divers, une nouvelle vague d'exactions enregistrée ce week-end. Les pompiers sont de nouveau intervenus en début d'après-midi à Montravel pour un incendie volontaire au niveau de la tour OPT. La zone avait déjà été incendiée la veille. 2 hectares de végétation étaient partis en fumée. Autre endroit incendié par deux fois ce week-end, la salle Anéoui, à la vallée du Tir. Pour rappel, les pompiers de Nouméa sont également intervenus la nuit dernière pour des feux mineurs entre 1h et 3h du matin. À la vallée du Tir, c'est un feu de voiture qui a été maîtrisé, suivi de deux feux de poubelle et de détritus sur Rivière Salée. Et puis au Mont d'Or, les forces de l'ordre ont lancé ce matin une opération de déblaiement de la route à Saint-Louis. Notez que ce soir, des détonations ont notamment été entendues à la Conception. Comme annoncé, l'usine de KNS est entrée dans une nouvelle étape, à savoir la mise en veille froide qui a débuté dès hier soir. Le 31 août était la date butoir, c'est ce qu'avait indiqué la direction de Cognambeau-Nickel depuis le retrait de Glencore de l'usine du Nord et l'arrêt progressif des activités sur le site de Vavuto, faute de repreneurs s'étant manifesté dans les 6 mois impartis. Durant les 2 prochains mois, plusieurs opérations vont se succéder, comme nous le détaille Winnie Guillet-Robert, la directrice technique de l'usine de Cognambeau-Nickel.
On a besoin de passer par une phase de transition qui sont 2 mois sur lesquels nos équipes vont travailler pour justement arrêter dans les meilleures conditions tous nos équipements qui sont liés au fonctionnement de ces 2 fours. Une fois que les fours vont passer à 0 MW, de pouvoir en fait maintenir toutes les installations qui auront besoin d'être maintenues un certain temps pour finir d'accompagner l'arrêt de ces fours. On a besoin de maintenir certains équipements pour maintenir le refroidissement, pour maintenir l'intégrité de ces installations justement. Il y aura toutes des étapes pour pouvoir arrêter toutes les installations annexes qui sont nos générateurs d'électricité, nos utilités qu'on appelle, donc tout ce qui est approvisionnement en eau air, gaz, donc azote et tout ça, qui permettaient jusque-là de maintenir nos installations en phase veille chaude et qui vont du coup être arrêtées. Mais pour pouvoir les arrêter, ce n'est pas des installations qu'on peut juste arrêter d'un seul coup. On a besoin en fait d'avoir tout un processus d'accompagnement pour les arrêter. L'idée, c'est de les laisser en condition pour qu'on puisse les redémarrer s'il n'y a jamais repreneur hier.
Lancer ce type d'opération, ça fait toujours quelque chose, évidemment.
C'est très difficile pour beaucoup d'entre nous, dont moi, c'est mon premier travail. Donc moi, j'ai été embauchée tout de suite après mon école d'ingénieur. Donc c'est sûr, c'est une étape difficile pour tout le monde. Après, on est toujours dans l'idée, il faut qu'elle se passe dans le mieux parce qu'on est toujours dans l'optique. Il faut qu'on puisse redémarrer dans les meilleures conditions si jamais on a un repreneur. Donc en fait, on a toujours gardé cette envie-là, en tout cas, de faire les choses dans les meilleures conditions, que ce soit en termes de sécurité ou de maintien de l'intégrité de nos installations. Donc c'est ce qu'on a fait sur ces 6 derniers mois. Et maintenant, c'est juste de comment accompagner une dernière fois nos équipements critiques là, sur lesquels on a tant compté pour justement s'assurer que si un repreneur revient, on puisse redémarrer dans les meilleures conditions.
Les travaux de construction de l'usine du Nord avaient commencé en 2007 pour une première coulée de nickel du four numéro 1 le 10 avril 2013. Après de nombreuses péripéties, le projet va donc marquer un temps d'arrêt, sans savoir encore si ce sera la fin définitive de l'outil de travail de Vavuto. On rappelle que sur les 1200 salariés de KNS qui ont pour la grande majorité terminé leur contrat hier, seuls 200 vont rester sur place pour la phase de mise en veille froide.
Radio Rythme Bleu, les bonnes fréquences. À Koné, c'est le 98.
Dans le reste de l'actualité, un deuxième salon consécutif à la Maison des Artisans qui a encore attiré les foules. Plus de 7000 visiteurs sont venus découvrir et surtout déguster les gourmandises du salon Saveurs et Traditions. Au fourneau, ils n'ont pas chômé, mais les exposants sont plus que satisfaits de cette édition 2024.
C'est la fromagerie de Païta. Le salon de la gastronomie, ça a été formidable. Au début, on a un peu calmé, mais là, samedi, le week-end, superbe. Donc, ça a permis de discuter un peu avec les gens et tout ça. Donc ça a été un bon ressenti, ce salon de la gastronomie.
Déjà, moi, je propose de la charcuterie sans colorant ni conservateur. Et c'est le meilleur salon depuis 6 ans que je fais. Et je suis ravie de revoir mes clients avec le sourire, de rencontrer des nouveaux clients, de faire goûter mes nouveaux produits.
Moi, je représente Eau Délices de Bretagne. Je vends surtout du sel de Guérande, des gâteaux bretons, des crêpes. Merci aux organisateurs, parce que c'est grâce à eux qu'on peut travailler un petit peu. On a quand même très bien travaillé.
Les gens, ils sont contents parce que moi, je fais de la cuisine en Guyane Réunion. Et les gens, ils adorent tout ce qui est épicé ou pas épicé. Moi, je fais en fonction de... Voilà. Ça s'est super bien passé. On est très contents.
Un succès qui éclaire la Chambre des métiers et de l'artisanat sur les orientations qu'elle doit suivre et sur les perspectives qu'elle peut proposer à ses quelques 11 000 artisans. Elisabeth Rivière en est la présidente. Pour elle, c'est une grande satisfaction.
C'est un grand sourire sur le visage de nos artisans. J'ai fait le tour des stands et ils sont très contents. Pour certains, c'est un des plus beaux salons qu'ils font avec un chiffre d'affaires qui dépasse les autres salons qu'ils ont fait. Ça montre bien la place de la Chambre de métiers dans le monde économique et le rôle qu'elle joue auprès de ses ressortissants, parce que bien souvent, des fois, on entend qu'il faille mutualiser les chambres. Je ne crois pas que ce soit la bonne solution. Pour nous, c'est de la satisfaction aussi, parce qu'on va aussi donc mettre d'autres salons en place.
La Maison des Artisans avait relancé ses activités dès le mois d'août avec le Salon des Artisans calédoniens qui avait déjà connu un grand succès durant cette période de crise économique majeure et de troubles provoqués par les violences insurrectionnelles. La Chambre des métiers et de l'artisanat devrait de nouveau proposer des rendez-vous pour soutenir ses artisans jusqu'à la fin de l'année. Des exposants encouragés également sur le marché Broussard qui avait pris ses quartiers au Mont d'Or à Boulary aujourd'hui. La deuxième édition se tenait ce dimanche. Olivier Surgent, son responsable.
C'est un devoir déjà, et puis c'est aussi une volonté municipale de redynamiser le secteur, puisqu'on a été impacté, c'est clair. Mais bon, c'est la deuxième édition de ce marché Broussard qui va revenir tous les mois. Donc en fait, le dernier dimanche du mois, on fera un marché Broussard, et on a même un projet de faire un marché saveur le deuxième week-end du mois. Comme ça, on aurait deux rendez-vous, un qui serait inscrit plus dans l'alimentaire, et le deuxième plus dans le côté brousse, vente de fruits et légumes, pour donner des thématiques et en fait porter en fait cet élan qu'on a réussi à faire aujourd'hui, puisque le beau temps, les clients sont là, les exposants sont là, une trentaine d'exposants. Puis même aussi pour les gens de Mont d'Or Sud, à qui on a une pensée bien évidemment, car la navette arrive juste à proximité. Donc en fait, les gens peuvent venir avec la navette, avec leur cabas, faire leurs courses, reprendre la navette sans utiliser de voiture.
Une trentaine de stands variés étaient sur place pour un rendez-vous soutenu par la municipalité du Mont-d'Or. Et puis à Nouméa, c'était le jour du vide-grenier de la place des Cocotiers. Comme tous les premiers dimanches du mois, ça se passait au centre-ville.
RRB, il est 18h.
L'heure de voir de quoi la semaine qui vient sera faite, c'est une reprise attendue. Les bus rails devraient circuler à nouveau dès demain sur la côte ouest. Le réseau était suspendu depuis le 1er juin, mais les conditions de circulation se sont améliorées et permettent donc une reprise partielle du réseau de transport en commun. Ludovic Lombard, directeur du SMTI.
On reprendra les lignes courantes sur toute la côte ouest et sur Puebo-Panier. On a des missions toutes les semaines pour vérifier l'état des routes, notamment sur la côte est. Donc maintenant, il faudra recommencer toutes les semaines pour vérifier la présence ou pas de chicanes, la présence de barrages qui empêcheraient la reprise du réseau. Si ce n'est pas le cas, la reprise progressive du réseau se fera au fur et à mesure.
Des discussions sont en cours avec les communes, notamment pour l'évolution de la sécurisation des routes, mais aussi pour des informations sur d'éventuels blocages. Demain, l'association Citoyens Mont-Dorien organise une manifestation au wharf du Vallon d'Or, Léana Colombo.
Et ce sera le 116e jour de blocage de la route de Saint-Louis. Le rendez-vous est donné à 7h. Demain toujours, ce sera la rentrée de la promotion 2024 de l'école de police de Normandie. Jeudi se déroulera le forum des soins palliatifs et des associations de santé sur le site ACH de Nouville. L'occasion de mettre l'accent sur les conséquences de la disparition du tissu associatif de santé du territoire. Ce samedi, l'UNC organise sa traditionnelle journée portes ouvertes. Sur le campus de Nouville, les lycéens et leurs familles seront accueillis de 9h à 15h, mais aussi de 8h à 13h à la galerie commerciale Théhari de Conné.
Vos rendez-vous d'antenne, c'est Jean-Luc Faure, coordonnateur du service national universel, qui sera notre invité demain matin à 7h30. L'occasion de parler avec lui de la prochaine session du SNU qui se déroulera du 7 au 18 octobre au lycée Lapérouse à Nouméa. Ce service s'adresse aux jeunes de 15 à 17 ans. 150 volontaires sont attendus, dont 10 en provenance de Wallis et Futuna. Les inscriptions sont déjà ouvertes. Après ce journal, vous retrouverez la rediffusion du magazine Transparence. C'est Veilma Falaeo, la nouvelle présidente du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, qui était vendredi midi l'invitée d'Elisabeth Noir. Au lendemain de son élection, elle a été interrogée sur la voie médiane que préconise l'éveil océanien et sur la façon dont elle veut gérer le Congrès. Interview à retrouver également en podcast audio et vidéo sur notre site internet. En bref, une dernière information pratique. Dès demain, Lagoon va de nouveau accueillir ses abonnés dans ses deux boutiques à Port-Plaisance et Conné. L'accueil se fera aux horaires habituels, soit du lundi au vendredi de 8h à 17h et le samedi de 8h à midi. Le service après-vente technique est de nouveau disponible, tout comme le standard du lundi au vendredi. Le service technique et le service commercial sont joignables par téléphone au 28 88 88, le 28 88 88. 18h passées de 2 minutes, une page de publicité avant d'évoquer l'actualité nationale et dans le monde.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
Du lundi au vendredi sur Radio Rythme Bleu, RRB raconte une histoire aux tout petits vers 19h20.
Raconte-moi une histoire avec Petit Dom, la boutique des tout petits. Petit Dom, c'est aussi et toujours les listes de naissance, de Noël, de baptême et d'anniversaire accessibles sur Internet. Chez Petit Dom, on n'hésite plus, on y va.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Et la suite du journal avec vous, Mickaël Juneski.
À l'actualité nationale, la nomination d'un nouveau Premier ministre devrait intervenir d'ici demain. Les oppositions commencent à réagir à l'image de la France insoumise face au refus d'Emmanuel Macron de nommer Lucie Castet à Matignon. Le parti de Jean-Luc Mélenchon a lancé une proposition de résolution de destitution, mais cette procédure a peu de chances d'aboutir. Arthur Delaborde pour Europe 1.
En théorie, c'est possible, mais dans les faits, une motion de destitution a très peu de chances d'aboutir. Cette procédure prévu par l'article 68 de la Constitution doit franchir plusieurs obstacles importants. Les deux chambres, Assemblée nationale et Sénat, doivent notamment voter pour aux deux tiers, ce qui semble improbable. Malgré tout, la France insoumise est déterminée à tenter le coup. Le mouvement a dévoilé une proposition de destitution de 4 pages. Le texte dénonce en particulier le refus du président de nommer, je cite, une première ministre issue de la coalition arrivée en tête lors des élections législatives anticipées. Même si les chances chances de faire tomber le chef de l'État sont très minces. Il s'agit donc avant tout pour les insoumis d'un moyen de pression politique visant à faire porter la responsabilité du blocage sur les épaules d'Emmanuel Macron.
Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Un rendez-vous d'antenne qui fait son retour. C'est Aurore Berger, ministre démissionnaire chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations qui sera cette semaine l'invité du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos. Une émission que vous retrouverez sur RRB demain soir, juste après Info Soir, votre grand journal de 17h45. L'actualité dans le monde. Au Proche-Orient, 6 otages ont été retrouvés morts dans la bande de Gaza, des personnes qui étaient retenues dans l'enclave palestinienne depuis l'attaque du 7 octobre 2023 contre Israël. Ariane Ménage pour Europe 1.
Leurs familles ont chacune été prévenues au cours des dernières heures. Parmi ces 6 otages, 5 avaient été enlevés au festival Nova dans le sud d'Israël. Hersh Goldberg-Polin et Dani Rouchalmi, Alexander Lobanov, Uri Danino et Al-Moksa Roussi. La 6e otage, Carmel Gat, avait-elle été enlevée ce jour-là au kibboutz Be'eri. Tous étaient en vie lors de leur enlèvement. Après 11 mois de captivité, leurs corps ont été retrouvés, selon l'armée israélienne, dans un tunnel souterrain. Son porte-parole rend ce matin les premières conclusions de l'enquête sur les circonstances de leur mort.
Selon la première évaluation dont nous disposons, ils ont été brutalement assassinés par des terroristes du Hamas. Peu de temps avant que nous les atteignions.
L'association qui représente les familles d'otages exprime ce matin son désespoir et sa colère. Un accord était sur la table depuis 2 mois, sans les retards, les sabotages et les prétextes. Ceux dont nous avons appris la mort ce matin seraient certainement encore en vie, a-t-elle réagi dans un communiqué. Selon les autorités israéliennes, 97 personnes sont toujours otages du Hamas à Gaza. La mort d'une trentaine d'entre elles a d'ores et déjà été confirmée.
Ariane Ménage, la correspondante d'Europe 1 en Israël. 18h passées de 6 minutes. Une dernière page de pub avant de partir sur les sentiers de Dimbéa, le Yala Trail à la une du sport. A tout de suite.
En cas d'urgence, chaque seconde compte. Choisissez la confiance. Choisissez les ambulances Saint-Jacques 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Rapide, fiable, il n'y a pas de jour sans les ambulances Saint-Jacques. Votre sécurité est notre priorité. Téléphone 25 27 27.
RRB.
Nos boîtes mail Lagoon étant inaccessibles pour le moment, nous vous informons que vous pouvez envoyer vos mails à l'adresse suivante rrb@rrb.nc. Information, publicité, programmation, avis de décès, avis et communiqué, une seule adresse rrb@rrb.nc.
Spécial info-jeu SMS sur RRB, le jeu du million 40-20 change de formule. Maintenant, c'est tous les 1500 SMS pile sur le compteur pour gagner 100 000 francs de bons d'achat à dépenser où vous voulez, comme vous voulez. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Alors pour jouer, envoyez RRB par SMS au 40-20. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 40-20. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 40-20. Bonne chance.
Tout le sport en 3 lettres, RRB.
La suite du journal et tous les sports, Mickaël Gineski.
Et à la une du sport en Calédonie, le Yala Trail. C'était enfin la reprise ce matin pour les amateurs de course en pleine nature, Léo Fichou.
Le rendez-vous était donné très tôt ce matin, effectivement, au Yala Ranch pour les 800 coureurs à prendre le départ du premier trail depuis le début des émeutes sur le territoire. Et sur la course Rennes, le trail de 15 km avec près de 900 mètres de dénivelé positif. C'est le membre des Fanks, Steve Juinier, qui s'est imposé en 1h30 minutes et 26 secondes. Il était forcément très heureux à l'arrivée.
Ah oui, très heureux pour la reprise. Par contre, la chaleur, c'est vrai que je pense qu'on a plus d'un à être surpris, étant donné que c'est la première compétition de reprise. Donc là, premier coup de chaleur, difficile pour les jambes, surtout pour relancer. Donc il a fallu appuyer un peu plus dans les descentes pour pas que ça revienne derrière. Mais ouais, une course géniale, quoi. Les passages dans l'eau. Le panorama, la vue, bon, on n'a pas trop le temps pour prendre les photos, mais magnifique à refaire et merci Sport Event TDR. Et voilà, merci beaucoup.
Steve Juinier, grand vainqueur donc du Yala Trail ce matin. Juste derrière lui, en deuxième position, on retrouve Claire Jacquin, la première femme. Elle a franchi la ligne d'arrivée après 1h31 minutes et 45 secondes d'effort. Une bonne reprise pour elle, mais une reprise difficile quand même.
Ouais, très belle reprise. Super parcours.
Alors moi j'ai triché, j'ai repris la course parce que j'étais un peu en métropole là cet été. Donc j'ai pas trop arrêté. Mais par contre les conditions, ouais, je suis pas encore tout à fait acclimatée. Là très très chaud. Heureusement il y avait quand même pas mal de zones d'ombre. Et comme bon, en partant dans les premiers, en arrivant pas trop tard en haut, ça allait encore. Mais ouais, bien s'hydrater et profiter des rivières pour se baigner.
Et à l'arrivée, tous les coureurs étaient unanimes. Malgré la chaleur, c'était une course magnifique. Je vous propose d'écouter la plupart, enfin quelques-uns des coureurs à l'arrivée.
Il fait chaud en effet, surtout en haut de la crête. En plus, c'était assez glissant avec une sorte de sable, mais quand on est en haut, c'est magnifique.
Un beau parcours, sympa. Ça fait du bien de remettre un dossard aussi. Le site, il est agréable.
Ça redonne envie et en plus le parcours était très très beau et super bien balisé. Vraiment, ça valait le coup de le faire. C'était très technique par contre. À la montée des vestiges là, ça tapait bien. Mais après, c'était très très technique et c'était ça que j'ai aimé, quoi.
Très content, je viens de Métropole. Je suis arrivé en juillet et c'était assez frustrant. J'avais prévu de participer au semi de Nouméa au mois d'août et je trouvais aucune course. Donc là, retrouver des terrains et en plus dans un cadre comme ça, ça fait vraiment plaisir. Et les sensations étaient bonnes, donc je suis ravi d'avoir participé à la course.
De quoi ravir Julie Prunet, co-gérante de Pro Events et forcément organisatrice du Yala Trail, qui a déjà annoncé le prochain rendez-vous. Ce sera en novembre sur le domaine de Deva.
Elle est toujours en Calédonie. On parle voile à présent.
Les qualifications du 17e trophée des jeunes marins se sont déroulées ce week-end au large de Nouville. Hier après-midi, les équipages composés de collégiens et lycéens se sont entraînés avant de passer à la compétition aujourd'hui sur des J70. Quatre manches étaient au programme et c'est l'équipage d'Alexandre Sandy qui l'emporte, juste devant celui de Victor Trinquet. Ces deux équipages rencontreront ceux de la province Nord et de la province des Îles du 14 au 18 octobre lors de la grande finale.
Du sport encore, direction Paris pour les Jeux Paralympiques.
Les pages spéciales des Jeux Paralympiques sur RRB avec la Banque de Nouvelle-Calédonie, partenaire premium de Paris 2024.
Et on démarre cette page consacrée aux Jeux Paralympiques avec les Calédoniens engagés sur cette Olympiade.
Le premier à être entré dans la compétition, c'est Vitolio Cavacava, mais malheureusement le Wallisien qui s'entraîne au Pôle France de Nouméa n'a pu faire mieux qu'une 7e place en finale du lancer du javelot. On le retrouvera tout de même le week-end prochain en finale du lancer du poids. Ce soir, place à Pierre Ferbank, il participera dès 21h50 à ses 7e Olympiades. Il sera au départ du premier tour du 400 mètres fauteuil, avant, on l'espère, de se qualifié pour la finale qui aura lieu dans la nuit à 4h55. Et puis enfin, le troisième et dernier Calédonien, c'est Félicien Siapo. Il est en finale du 100 mètres. Coup d'envoi de l'épreuve à 4h30, heure de Nouméa.
Allez, on fait le point au classement des médailles après trois journées, Léo.
Et grâce aux 8 médailles décrochées la nuit dernière et ce matin, dont une en or, une en argent et 6 en bronze, la délégation tricolore pointe à la 8e place du classement général. La France compte 17 médailles. En tête du classement, on retrouve toujours la Chine avec 42 médailles, dont 20 en or. La Grande-Bretagne est deuxième avec 25 médailles, dont 11 titres. Le Brésil complète le podium, 23 médailles, dont 8 en or.
C'était les pages spéciales des Jeux Paralympiques sur RRB avec la Banque de Nouvelle-Calédonie, partenaire premium de Paris 2024.
Le sport sur la scène nationale et internationale toujours. On passe au football avec la troisième journée de Ligue 1.
Oui, et une pluie de buts cette nuit et ce matin en Ligue 1. Brest a écrasé Saint-Etienne 4-0. Les Nantais d'Antoine Comboiré ont battu Montpellier 3-1. Même score pour Marseille face à Toulouse, 3-1 du coup. Et en ouverture de la troisième journée, on le rappelle, Lyon a battu Strasbourg 4-3. La nuit prochaine, Monaco reçoit Lens à minuit. À 2h, Angers accueille Nice. Le Havre affronte Auxerre et Rennes se déplace sur la pelouse de Reims. Et enfin, le choc du haut de tableau entre Lille et le PSG pour clôturer cette journée, ce sera demain matin à 5h45.
Les sports mécaniques avec le Grand Prix d'Aragon de MotoGP ce week-end et sur la course sprint, il n'y a clairement pas eu photo, Léo Fichou.
Marc Marquez a écrasé les qualifications mais aussi la course sprint. Effectivement, il a devancé deux autres Espagnols, Jorge Martin et Pedro Acosta. Fabio Quartararo termine 8e. Joan Zarco, lui, a malheureusement chuté. Ce soir, il y aura la course Rennes. Zarco partira à la 10e place, Quartararo à la 17e. Le départ sera donné à 23h.
On passe à la Formule 1.
Vos stations Shell et Pacifique, partenaires des pages spéciales Grand Prix de Formule 1 sur Radio Rythme Bleu.
Et après sa victoire la semaine dernière aux Pays-Bas, Lando Norris partira en pole position ce soir au Grand Prix d'Italie. Max Verstappen se retrouve, lui, en grande difficulté. L'analyse de Christopher Filhoc d'Europe 1.
Une triste 7e place, et oui, qu'il est loin, le temps où la Red Bull du triple champion du monde écrasait tout sur son passage, ne laissant que des miettes à ses concurrents. Il faut dire que le Néerlandais n'a plus gagné depuis 5 courses, à l'inverse de Lando Norris, qui lui confirme la supériorité actuelle des McLaren. Et malgré les 70 points d'écart qui séparent les deux pilotes, le Britannique pourrait frapper un grand coup dans la course au titre en cas de victoire. En tout cas, le pilote McLaren y croit.
On donne tout chaque week-end. Notre objectif est de remporter les deux titres. On fait tous de notre mieux, donc on a de l'espoir. Je ne pense pas au championnat. Je prends chaque course une par une. Ce qui m'importe aujourd'hui, c'est ce week-end.
Pour le reste, Mercedes a dû se contenter de la 3e place de Russell, la 6e pour Lewis Hamilton. Devant ces dizaines de milliers de tifosi bouillants, les Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz sont respectivement 4 et 5e. Le top 10 est complété par Sergio Perez, Alex Albon et l'Allemand Nico Hülkenberg. Alpine très en difficulté hein, depuis le début du week-end. Place ses pilotes Pierre Gasly et Esteban Ocon, 14 et 15e.
Christopher Filhoc du service des sports d'Europe 1. Départ du Grand Prix d'Italie à Monza à minuit ce soir, heure de Nouméa.
C'était votre page spéciale Grand Prix de Formule 1 parrainé par Shell et Pacific. Shell, un nouveau partenaire innovation de la Scuderia 2024. Sélectionnez le meilleur pour votre véhicule.
On passe au cyclisme, la 15e étape de la Vuelta ce soir, étape de montagne avant une journée de repos, Léo Fichou.
La deuxième semaine s'achèvera par une étape difficile, très difficile, même avec notamment la double ascension sous de fortes chaleurs vers Cola Diela avant de monter le Couto Negru et ses rampes jusqu'à 23%. On le rappelle au général, Ben O'Connor est toujours en tête avec 1 minute et 21 secondes d'avance sur Primoz Roglic. Henrik Maas complète le podium. Le premier français, David Gaudu, est 9e à 4 minutes et 44 secondes de Ben O'Connor.
On termine avec du rugby, la 3e journée du Rugby Championship.
L'Afrique du Sud a enchaîné une 3e victoire en 3 matchs. Cette nuit, les Springboks se sont imposés 31 à 27 sur la Nouvelle-Zélande et confortent leur première place au classement. L'Australie, de son côté, s'est rattrapée après les deux premières défaites lors des deux premiers matchs. Les Wallabies ont battu l'Argentine d'un petit point, 20 à 19.
Merci Léo Fichou, 18h16, on termine avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Les détails de cette météo, c'est avec vous Maxime, bonsoir.
Bonsoir à tous, et bien on commence le bulletin avec pas de vigilance particulière pour cette nuit. Tout d'abord, le ciel sera le plus souvent clair à peu nuageux sur l'ouest. Ailleurs, de petits nuages quand même circuleront et de rares ondées seront possibles sur l'est et au Loyautés. Le vent mollira sur l'ouest et deviendra localement variable faible. Il pourra tout de même souffler entre 10 et 15 nœuds dans l'axe de certaines vallées. Sur la pointe nord, le vent d'est-sud-est sera de 15 à 20 nœuds. Ailleurs, le vent d'est-sud-est restera proche des 15 nœuds en soirée, mollissant entre 10 et 15 nœuds de secteur est, et les températures minimales oscilleront entre 11 et 16 degrés dans l'ouest et s'échelonneront de 16 à 22 degrés ailleurs. Demain matin, sur l'ouest, toujours un franc soleil dominera. Ailleurs, il sera contrarié par des passages nuageux en cours de matinée. Et toujours sur l'ouest, en début de matinée, le vent sera faible avec encore des accélérations entre 10 et 15 nœuds. Il s'orientera plus tard au sud autour des 10 nœuds. Sur les autres régions, il sera de secteur est entre 10 et 15 nœuds et localement 15 à 20 nœuds sur la pointe nord.
Merci beaucoup Maxime, c'est la fin de cette édition. Dans un instant, la rediffusion du magazine Transparence. C'est Velma Falaeo, la nouvelle présidente du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, qui était vendredi midi l'invitée d'Elisabeth Noir. Je vous retrouve à 19h pour d'autres infos. Belle soirée.